Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, une balade dans le sud de la France avec un célèbre neuropsychiatre. Un roman fantasque avec une grande dame de la poésie, de la musique réunionnaise et l'annonce du lauréat du prix des 5 continents de la francophonie. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
On vous fait voyager à distance, tant que l'on peut, direction le sud de la France aujourd'hui, avec Boris Cyrulnik, chez lui, à la Seyne-sur-Mer, à l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage. Il raconte l'influence de notre environnement naturel sur notre croissance et sur notre vie. Un entretien en deux parties, in situ, à suivre cette semaine et la semaine prochaine. Nous serons en plateau avec l'auteur franco-libanaise Vénus Kourigata pour son nouveau roman, un récit qui convoque des fantômes, une réflexion sur l'importance des hommes dans la vie d'une femme. La chanteuse réunionnaise Christine Salem sort un nouvel album magnifique, une claque musicale dont on a bien besoin en ce moment, portée par des textes forts et engagés. Décryptage avec elle tout à l'heure, Christine Salem qui vous offrira aussi une performance musicale dans notre studio. Et voici les libraires qui vont nous accompagner et vous accompagner tout au long de ce programme. C'est le retour de Mathieu Colombe en 2021 pour la France. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Bonne année, hein, du coup. On peut encore.
Oui, on a encore le droit, là.
Vous êtes libraire à Aix-en-Provence dans la librairie Goulard. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne. Pour la Suisse, c'est Claire Renaud qui est avec nous. Elle aussi, retour, je crois, en 2021, Claire. Vous êtes dans la librairie Atmosphère à Genève. Bonjour.
Bonjour Emmanuel et bonne année.
Et bonne année à vous. Bonjour Josiane Letourneau.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes là depuis quelques semaines déjà. Vous représentez le Canada dans la librairie du Square. Vous interviendrez bien sûr tous les quatre tout au long de cette émission. Le prix des 5 continents de la francophonie a été choisi mercredi par le jury composé de grands noms de la littérature francophone. Dans ce jury, il y a Vénus Kourigata que vous retrouverez dans la troisième partie de l'émission. Bonjour Vénus.
Bonjour.
Le prix des 5 continents de la francophonie a été décerné cette année à Beata Omubiehimeres.
Pour son livre, tous tes enfants sont dispersés aux éditions Autrement. Il y a aussi la mention spéciale qui a été donnée à Paul Kawask et qui est québécois.
Oui.
Et qui a publié chez La Peuplade.
Voilà.
C'est la première fois qu'on donne à cet éditeur.
La Peuplade, très bon éditeur québécois.
Très bon éditeur, j'étais contente qu'on lui donne.
Et donc un auteur québécois en mention spéciale et le Grand Prix à une auteure d'origine rwandaise pour le Grand Prix. Et Beata Omubiehimeres est avec nous en ligne. Bonjour Beata.
Bonjour.
Vous étiez dans la librairie francophone en octobre 2019 pour ce roman « Tous tes enfants dispersés » paru aux éditions Autrement. Vous êtes donc la lauréate 2020. Quelle est votre réaction aujourd'hui ?
Quand j'ai eu l'appel des membres du jury, c'était d'abord un moment suspendu, presque irréel. Et puis, j'ai une gratitude infinie envers les membres de ce jury prestigieux, composé d'auteurs et d'autrices que je lis et que j'admire beaucoup. Un tel prix pour mon premier roman, c'est immense je pense que je n'ose pas encore mesurer ma chance.
Un premier roman dont nous avions parlé parce que vous étiez venu dans l'émission, vous vous souvenez de ça ?
Absolument.
Et oui. C'était un livre qui avait séduit, d'après mes souvenirs, les libraires. Bon, cet entretien est à retrouver sur notre site internet. Nous le rediffuserons prochainement, bien sûr. Et on vous retrouvera aussi dans la version télé au mois de mars, quand vous recevrez ce prix officiellement lors de la Journée internationale de la francophonie, prévue pour l'instant le 20 mars. Vous serez présente, évidemment, avec toutes les demandes.
Oui, je serai présente et j'espère que la situation sanitaire nous permettra de nous retrouver
voilà.
À ce moment-là. Ouais. Au mois de mars à Paris.
On espère tous, voilà. On essaye de faire des projections, mais c'est pas facile. Bon, félicitations Beata en tout cas, à très bientôt.
Merci infiniment.
Merci à vous. Lisez ce livre, « Tous tes enfants dispersés » aux éditions Autrement. Et on quitte notre studio pour aller au bord de la mer, dans le Var, où nous a reçu le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Son nouvel ouvrage évoque l'influence de la nature sur les humains, direction le paysage marin donc. Après avoir parcouru 1 kilomètre le long d'une corniche qui borde la mer du côté de Toulon, nous voici devant une maison de pierre rouge, colorée de vert clair. quelques arbres méditerranéens dans le jardin et nous voici sur une terrasse, assis sur un banc, avec vue imprenable sur la mer, baigné de soleil. Et bonjour Boris Cyrulnik.
Bonjour.
Alors nous sommes à la Seyne-sur-Mer, dans le Var, ville de l'agglomération toulonnaise, à côté de Bandol. On est chez vous pour l'instant, on va se balader dans un instant, on va aller sur une petite plage. La Seyne-sur-Mer, c'est une ville qui s'est développée grâce à la construction navale. Il y a même eu ici l'un des plus grands chantiers navals de France. Vous savez ça Boris, oui?
Mais bien sûr, c'est même ici qu'ont été inventés les sous-marins. C'est ici que j'ai assisté au dernier lancement de très beaux navires. Avant la fermeture des chantiers, c'était la fête au village. Les ouvrières mettaient leurs belles robes, les messieurs mettaient leurs belles uniformes ou leurs costumes du dimanche avec la cravate. Et on lançait le bateau, il y avait des sirènes, c'était la fête au village, c'était beau, c'était beau.
Alors, dès qu'on arrive chez vous, on longe le bord de mer. Il y a d'ailleurs un chantier naval avec des yachts sublimes. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous en avez commandé un peut-être, mais ils sont sublimes.
Oui, j'avais une affaire à faire à 400 millions d'euros, donc j'ai sauté sur l'occasion.
Voilà, c'est ça. Bon, on voit la mer hein, d'où on est. Vous publiez « Des âmes et des saisons » chez Odile Jacob, un livre défini comme un ouvrage de psycho-écologie. Et vous expliquez dans cet essai que depuis toujours, l'homme s'adapte à son environnement. Autrefois, ici en France, dans cette région du Sud, mais pas seulement, on travaillait à la montagne et on descendait dans la vallée pour plus de confort et de plaisir. Mais cette confrontation entre deux climats, entre ces deux écosystèmes finalement, favorisait la résistance des hommes.
On s'adaptait tellement bien au milieu que ça changeait les corps et les âmes des hommes et des femmes et les rituels socio-culturels. Tout était changé. Quand les gens vivaient dans la vallée, où il y avait la douceur, de l'eau, du soleil, des fruits partout, les familles étaient moins utiles. On voyait se diluer les couples, on voyait les hommes et les femmes se courtiser dans des bals populaires, on voyait des jeux d'animaux, et les hommes et les femmes finissaient par ne pas être heureux dans cet univers facile. Alors ils décidaient de remonter en haut de la montagne, où l'écologie était beaucoup plus dure, et en montant, il fallait construire des abris pour les animaux, les surveiller, construire, surveiller les enfants qu'on ne pouvait plus laisser traîner n'importe où parce qu'il y avait du danger. Et les rituels changeaient, l'imaginaire changeait. Dans la vallée où le bonheur était facile, c'était l'imaginaire de la fête. Sur le haut sommet, l'imaginaire devenait heureux parce que c'était le triomphe contre le malheur. Et les gens étaient fiers d'avoir triomphé du froid, d'avoir triomphé de la montagne. Et dans les deux cas, ils étaient heureux. Mais ce n'était pas du tout le même bonheur.
Vous évoquez aussi, je cite, le bonheur bébête qui alourdit notre corps et engourdit notre âme. Qu'est-ce que c'est le bonheur bébête? Est-ce que cet entretien, là, au bord de la mer, chez vous, nous met dans un bonheur bébête, Boris?
Alors, s'il n'y avait que le bonheur facile, passif, ça serait le bonheur bébête et je finirais par être complètement engourdi et peut-être même vous aussi. Donc ça ferait des entretiens moyens. Mais comme on a des activités, comme on se déplace, on monte, on gravit la montagne et on a des problèmes à résoudre, et ce qui fait une autre forme de bonheur, mais c'est le bonheur de triompher de l'épreuve. Et on a besoin d'une alternance comme le jour et la nuit, comme l'hiver et l'été. On a besoin d'une alternance pour se sentir heureux.
Alors c'est vrai que selon vous, dans les endroits, certains endroits du monde tempérés ou tropicaux, il y a plus de désespoir et de suicide. Vous citez l'exemple de Tahiti notamment, comme si la douceur de la nature et du climat empêchait la réalisation de soi.
Mais oui, ces paradis sur Terre donnent des pics de suicide. Très souvent, c'est des conditions environnementales qui provoquent les pics de suicide. La première condition environnementale déficitaire, c'est les 1000 premiers jours de la vie. Si les bébés, vous avez bien entendu, si les bébés ne sont pas bien sculptés pendant les 9 mois d'utérus, où on a tous été des mammifères aquatiques, hein, Monsieur Kérad, vous aussi, vous avez été un mammifère aquatique pendant 9 mois.
Je suis toujours un mammifère aquatique.
Et si quelque chose se passe mal, si votre mère est malheureuse, si parce qu'il y a la violence conjugale, parce qu'il n'y a pas de père, parce qu'il y a la précarité sociale, c'est le principal facteur de stress de la mère, eh bien le bébé qu'elle porte est altéré. Seulement, si j'arrête mon raisonnement là, tout le monde va être désespéré. Donc je vais vite ajouter, si on sécurise la mère par la présence du mari, par la famille, par la culture, le bébé aussitôt se débrouille pour reprendre un bon développement. Donc voilà un raisonnement écosystémique, c'est pas une cause provoque un effet. Le bébé est altéré si la mère est altérée, mais il suffit de sécuriser la mère pour que le bébé aussitôt se débrouille.
Vous expliquez aussi à un moment, au Québec, un enfant qui a vécu dans le ventre de sa mère une tempête terrible, une tempête de neige, qui s'est retrouvé à l'adolescence et même à l'âge adulte à se remettre dans ce traumatisme, parce que vous dites que le traumatisme, le stress de la mère, dans cet endroit du Québec dévasté par une tempête, avait traversé le placenta. C'est possible ça ?
Alors la neurobiologie dose les substances. Quand la mère est stressée, elle s'adapte au stress en sécrétant du cortisol et en sécrétant des catécholamines, l'adrénaline surtout, qui sont les substances qu'on sait doser. Si c'est un stress aigu, le bébé se débrouille et la mère est sécurisée, il se débrouille. Si le stress est chronique, l'accumulation de ces substances finit par franchir la barrière placentaire et pénétrer dans le liquide amniotique et le bébé déglutit du liquide amniotique bourré de cortisol, bourré de substances du stress qui abîment son cerveau. D'où la nécessité politiquement d'offrir aux femmes enceintes des conditions de grossesse tranquilles pour que la mère puisse être apaisée et que le bébé se débrouille pour bien se développer.
Bon, alors là, on est dans un endroit tranquille, hein, on est au soleil, on a la mer juste à côté, on va traverser la rue dans un instant. Juste une phrase que vous citez, Boris Cyrulnik, dans votre livre, vous dites « L'homme n'est pas séparable de son environnement, dont son corps est un carrefour. Son âme, elle aussi, est à la croisée des contraintes. » Et du coup, vous montrez aussi que l'homme a toujours voulu dominer la nature pour survivre. C'est dans notre histoire, c'est dans notre ADN, ça, Boris. Sauf qu'à force de vouloir dominer la nature, de garder cet héritage, nous avons provoqué des catastrophes sanitaires.
Alors, la domination a été prescrite par toutes les cultures. La domination des hommes a été prescrite par toutes les cultures. La Bible, tu domineras les oiseaux dans l'air, les poissons, la terre, tu domineras tout. Ça a permis la survie. La violence des hommes a permis la survie. Sinon, l'espèce humaine aurait disparu. Donc, ça veut dire que si le virus provoque un effondrement qu'on n'arrive pas à remonter, il n'est pas impossible que la violence redevienne une valeur adaptative et les femmes sont moins douées pour la violence que les hommes.
Mais vous pensez que, à force de vouloir dominer la nature, c'est vraiment ça qui a généré ces catastrophes sanitaires ? Oui, c'est ça, c'est l'origine.
Pourquoi est-ce qu'on fait des élevages intensifs ? C'est parce que nous, êtres humains, on dévore des quantités invraisemblables d'autres êtres vivants. Personnellement, j'ai compté que j'ai dû dévorer 60 ou 90 vaches. Donc, mais j'ai attendu qu'elles soient mortes et découpées en beefsteak. Donc, et comme on est bientôt 8 milliards d'êtres humains sur Terre qui tenons à peu près les mêmes raisonnements, on est en train de modifier l'atmosphère avec ça. L'agriculture qui avant était consacrée aux êtres humains, maintenant elle est consacrée aux animaux qu'on dévore. Donc on est en train de complètement de bouleverser l'agriculture, l'élevage, et comme on est techniquement, on est des virtuoses de la technologie, regardez, vous me faites parler dans un micro, c'est stupéfiant, c'est incroyable la technologie, c'est une victoire de l'esprit incroyable, mais le virus, qui, quand il a été fabriqué par un élevage argentin ou chinois, eh bien les avions le transportent instantanément sur la planète. On a calculé qu'un beefsteak argentin, délicieux, arrivé sur ma table, il a fait deux fois le tour de la planète en avion. Donc les virus sont très contents. On les fabrique, on les transporte. Donc ils s'épanouissent.
Voilà, et vous montrez aussi qu'il y a eu des changements de climat dans l'histoire de l'humanité. La nature et les végétaux s'adaptent toujours, se transforment, même en cas d'incendie ravageur. Vous citez l'exemple d'un grand incendie en 1978, ici au Cap-Sicier, à Toulon. Voilà, juste en face, il est où le Cap-Sicier ?
C'est la montagne qu'on voit du bout de mon jardin, c'est le Cap-Sicier, qui est très beau. Effectivement, il y avait un incendie. Ce que je vais dire est affreux, c'était très beau. La montagne était rouge, le ciel était noir, la mer était grise, ça faisait un effet extraordinaire. Eh bien, là, le Cap Sissier est résilient. Et c'est la définition de la résilience parce que, après l'incendie, les arbres étaient noirs, enfin les troncs d'arbres étaient noirs, tout avait disparu, les animaux avaient disparu, la flore avait disparu. 2-3 ans après, on a vu réapparaître les chênes qui ne pouvaient pas se développer à cause des pins, mais comme les pins étaient brûlés, les chênes se sont développés. On a vu réapparaître des bosquets, les cistes, donc on a vu réapparaître les petits gibiers entre les bosquets, donc on a vu apparaître les aigles qui avaient disparu. 2-3 ans après, la faune, la flore a réapparu, mais c'était plus la même. C'est la définition la plus jolie que je connaisse de la résilience.
Voilà, la résilience chère à Boris Cyrulnik. On va se déplacer, on va aller au bord de l'eau. Alors, pas beaucoup de kilomètres, hein, quelque part, on va dire, parce qu'on est vraiment au bord de la mer. Et on va se retrouver sur une petite plage. On va laisser la parole à nos libraires. Vous savez, Boris, qu'il y a des libraires qui ont lu votre livre en Belgique et au Canada. On va se déplacer, on va quitter le banc vert, un vert d'eau hein, qui colore vos volets et votre banc. C'est sublime. Avec la pierre rouge aussi de la maison.
C'est une maison italienne, c'est une maison génoise, parce que c'est les Génois qui ont fondé les chantiers, le style de la Seine. Donc on a eu la chance d'acheter une maison génoise. Ma femme adore l'Italie, donc ce que vous venez de décrire, c'est le style des maisons génoises.
Exactement, d'un style qu'on trouve d'ailleurs sur toute la Côte d'Azur, hein, jusqu'à Nice bien sûr. Allez, on va se déplacer, Boris, si vous voulez bien. On va prendre nos petites affaires. Il y a un très beau mimosa sur notre droite, hein, deux palmiers, un pin. Alors les libraires, on va laisser la parole, le temps de sortir de la maison de Boris Cyrulnik, la parole à Déborah en Belgique. Avez-vous pensé de cet essai?
Alors waouh, mais c'est foisonnant, c'est tellement dense que j'ai l'impression de lire plusieurs livres à la fois. Le temps d'assimiler une notion et vous nous en proposez une autre, c'est formidable. Et en plus, aussi érudits soient vos sujets, vous restez toujours clair, narratif et accessible. Mais quel voyage!
Qu'est-ce qu'elle est bien, Déborah.
C'est bien la Belgique. Hein.
Ah oui. Ouais.
On va voir le Canada si elle est d'accord. Josiane Letourneau, qu'en pensez-vous?
Oui, quel livre absolument fascinant. Dès la première page, c'est un voyage passionnant et passionné. Il nous fait marcher sur ce fil entre corps et âme. Bon, si du moins nous pouvons toujours appeler cette dernière ainsi, car vous lui faites un sacré croche-pied à la vision spirituelle de l'âme. Enfin, merci de nous rappeler que nous sommes des êtres construits par et liés à notre environnement. Je crois qu'il est grand temps pour notre bonheur et notre survie que nous cessions d'ignorer.
Elle est très bien aussi, cette Québécoise, mais je pense que je tords pas la spiritualité. Je pense que la spiritualité fait partie de la condition humaine, mais la spiritualité, c'est l'accès à la transcendance, une transcendance. La religion, c'est culturel. Si vous naissez en Égypte aujourd'hui, statistiquement, vous avez plus de chances de devenir musulman que bouddhiste. Donc la religion, c'est culturel, alors que la spiritualité, c'est la condition humaine.
Voilà, la petite leçon de Boris Cyrulnik. On va traverser, Boris, et on va se retrouver sur la plage, ici, à la Seyne-sur-Mer, dans le Var.
Et le nouveau livre de Boris Cyrulnik, Des âmes et des saisons, est paru chez Odile Jacob. La suite de cet entretien à la Seyne-sur-Mer la semaine prochaine dans la librairie francophone. Nous serons donc sur la plage, les pieds presque dans l'eau. À suivre l'artiste réunionnaise Christine Salem et son nouveau titre, Christine Salem, qui est en plateau avec nous et qui vous offrira une performance musicale tout à l'heure dans notre studio. On écoute Tiens beau, extrait de son nouvel album.
Yali mon cafrine, yon béli farine ton vie, les ou comprend pis la bibou, ou arasouvi. Yali mon cafrine, yon béli farine ton vie, les ou comprend pis la bibou, ou arasouvi. Tiens beau,
tiens beau à l'effort,
tiens beau,
tiens beau à l'effort,
tiens beau,
tiens beau à l'effort,
tiens beau,
tiens beau à l'effort.
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 Si mon Elle n'est pas si latée pour admettre son vidon de malheur. Comme la peau d'un aligaïa, l'amour pour vivre un bonheur. Elle n'a pas si la théa pour admettre son bidon de malheur. Comme la peau d'un aligaïa, l'amour pour vivre un bonheur.
Christine Salem avec Tiambo.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Christine Salem.
Bonjour.
Vous sortez cette semaine votre nouvel album, le 7e, en comptant ceux avec votre groupe Salem Tradition. Merci est un hommage à vos ancêtres qui viennent d'Afrique et de l'océan Indien. Qu'ont-ils transmis ces ancêtres-là aux artistes réunionnais ?
Beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, moi, ça m'est tombé dessus en fait. C'est-à-dire, nous, on a un lien, en tout cas, traditionnellement, très particulier avec les ancêtres, et on fait des cérémonies, on les honore, et du coup c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours en même temps, et c'est à travers eux, ben moi je compose, j'écris, et voilà.
D'accord. Vous dites qu'ils vous ont fait comprendre l'amour, les ancêtres.
Ouais.
C'est vrai.
Tout à fait.
Comment les ancêtres peuvent nous faire comprendre l'amour?
En fait, moi, depuis toujours, vu de ma génération, j'ai toujours été rebelle, toujours revendicatif. Je me plains pas, mais voilà, j'impose plein de choses. Et c'est vrai qu'à un moment donné de la vie, justement au moment où j'ai commencé à être connecté avec mes ancêtres, ça m'est arrivé, ça m'est tombé dessus comme un nuage, bim.
Ah oui, connecté, c'est-à-dire
C'est-à-dire on communique.
Ah oui.
Ouais. On communique, que ce soit en rêve ou par intuition. Et,
comme
et,
des guides, en fait. Comme, ça
exactement. Et en même temps, je me mets à parler dans des langues que je connais pas, à écrire, faire de l'écriture automatique. Et aussi, dans mes chansons, je chante des langues que j'ai pas appris, que je connais pas. Et sauf que c'est des chansons qui... je peux chanter 10 000 fois, je vais chanter 10 000 fois pareil. Donc au début, j'étais un peu stupéfait par ça. Après, comme moi, j'ai pas eu ce côté, enfin ma famille n'a pas cette tradition de cérémonie et tout ça, donc du coup, j'ai dû faire des recherches pendant des années.
Oui, parce que c'est mystique ça, ce que vous racontez.
C'est hyper mystique. Donc j'ai fait des recherches, je suis allé sillonner un peu tout l'océan Indien, l'Afrique, et essayer de comprendre qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi ce truc.
Mais quelles sont les langues, par exemple, que vous parlez, sans les avoir apprises?
En fait, on peut retrouver de l'arabe, on peut retrouver du swahili, et on peut retrouver des dialectes.
Et c'est cohérent? Ce que vous dites est cohérent?
Et ce que je dis, c'est cohérent.
Non, mais si je peux me permettre la question, parce que...
Oui, oui, oui. Ouais, c'est... Après, c'est hyper... Enfin, même moi, ça m'a, pendant des années, ça m'a beaucoup bloqué. Hein.
Ouais, je comprends.
Je comprends on comprend pas trop, on sait pas. Et au moment où je suis parti, justement, sur la trace de mes ancêtres,
ouais.
Et j'ai rencontré plein de gens, des maîtres de cérémonie, des maîtres spirituels, et qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Et bah déjà il y a l'acceptation qui est hyper important aussi. C'est le premier c'est la première étape, et après il y a l'étape comment vivre avec, qu'est-ce qu'on fait de ça. Donc il y a tout, enfin je suis passé
par fait de la musique
ça.
C'est ça. Et en fait vous êtes imprégné de la musique du Maloya notamment, Kézine Salem, parce que vous racontez qu'à l'âge de 7 ans vous êtes passé comme ça dans la rue devant le groupe Ziskakan. Alors je salue Gilbert Pugna, avec qui on a déjà fait une émission sur l'île, chez lui d'ailleurs, et aussi sa fille qu'on connaît très bien, Maya Kamati. Mais c'est à ce moment-là, quand vous passez devant Ziskakan, que vous avez une sorte de déclic.
Aussi, bah c'était la première fois que je voyais des instruments traditionnels et que j'entendais la musique traditionnelle de la Réunion, le Maloya. Et là, je me suis posé plein de questions. Après, ce qui suit à l'école, on me disait que nos ancêtres étaient des Gaulois. Donc, quand je regarde ma tête, mes cheveux, je me dis, il y a un problème.
Oui, parce que vous avez une coupe afro, hein, pour ceux qui ne vous connaissent pas.
La couleur de peau, c'est un peu bizarre, quoi, de me dire que mes ancêtres étaient des Gaulois. Donc, ça m'a beaucoup touché. Ça a mis à l'intérieur de moi une sorte de haine. Voilà, on me ment, quoi.
Vous avez connu la discrimination sur l'île de la Réunion quand vous étiez enfant, vous?
Oui, parce qu'on disait que mes ancêtres étaient des Gaulois, et moi je disais non, nos ancêtres c'est pas des Gaulois. Et le maître me dit, mais non, mais c'est en France, c'est comme ça. Mais moi je lui ai dit, nous on est à la Réunion, c'est ça le truc.
Et il fallait pas parler créole non plus, comme aux Antilles.
Il fallait pas parler créole à l'école.
Les Antillais ont connu ça, oui.
Et du coup, ben moi du coup je parlais jamais, parce qu'à la maison on parle que créole, donc on parle jamais français. Et je crois que mes ancêtres des Gaulois, ça a débordé le vase, je crois. Et là, je suis venu complètement rebelle par nature. Enfin, voilà, m'imposer quelque part aussi, quoi.
Bah, vous avez eu raison de défendre vos racines.
Tout à fait.
Sur votre île, quand même, non? C'est le minimum.
En fait, quand il m'a annoncé ça, j'ai dit, mais il y a un truc qui cloche pas. Et là, en arrivant à la maison, je dis à ma mère, par contre, il y a un truc que je comprends pas, pourquoi ils disent que nos ancêtres étaient des Gaulois. Et c'est là que j'ai appris l'histoire de l'esclavage et de la Réunion.
Alors, je rappelle que le Maloya fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, inscrit par l'UNESCO depuis 2009, un art musical né sous l'esclavage. Le Maloya a été la voix des opprimés entre chant et danse, et il continue à vivre aujourd'hui grâce à des artistes comme Daniel Waro, comme Ziskakan, et la nouvelle génération dont vous faites partie aussi, Kézine Salem. Alors, vous êtes né un 20 décembre. Ça aussi, c'est étrange, parce que cette date, elle est symbolique pour les Réunionnais. Le 20 décembre 1848 est la date de l'abolition de l'esclavage à la Réunion. Et c'est un jour férié, c'est la fête CAF.
Ouais, c'est ma fête, c'est mon anniversaire, je fais tout avec. Enfin, plein de gens me disent, ouais, c'est pas un hasard que tu es né le 20 décembre. Et moi, je me dis, je suis quelqu'un d'assoiffé de la liberté.
Ouais.
Peut-être c'est pour ça.
Et vous pensez que c'est parce que vous êtes né un 20 décembre?
Ben moi, je sais pas, c'est symbole de la liberté, j'aime bien la liberté.
Bon, la liberté, en tout cas, elle est sur votre nouvel album. Maloya blues rock, selon Kézine Salem, avec ce titre À nous. Qu'est-ce que vous racontez dans cette chanson?
En fait, là, je rends hommage à mes ancêtres. Et quand on dit en créole À nous, c'est tout le monde. Et donc, voilà, mambo, ça veut dire merci dans la langue de mes ancêtres. Donc, je remercie tout le monde, en fait. Et après, c'est vrai que c'est un album qui est beaucoup sur tout ce qui est la reconnaissance. Le remerciement, je dors aussi, et c'est un moment, je pense, de ma vie aujourd'hui. J'ai décidé de vivre ma liberté comme il se doit.
Et de dire merci aussi.
Et de dire merci.
Alors, vous avez accepté de nous interpréter merci a cappella, un petit extrait.
Oui.
À ce micro-là, on peut l'enchaîner avec après à nous. Vous pouvez y aller là.
m'a crié, m'a lagué, mon cœur révolutionné, donne la lumière pour autre fait clair, baillant, m'a prié pour moi dit merci. La lumière, bon Dieu, Maloya, ou même la fée ou moins, et Maloya, ou même pour guette à moins, m'a dit merci, bon grand moun la baya, m'a dit merci, moumou. Pour moi danse dans le cabaret, ma cabosse dans le noir pour de la nuit de baya, donne maloya moumou, ma crase à lui-même, maloya, m'a dit merci, bonnes ancêtres là. Et Maloya m'a dit merci, bonne gamoun là.
Voilà la voix extraordinaire de Christine Salem. Dans les conditions du direct dans notre studio, c'est très émouvant. Il y a quelque chose... Oui, je vous sens très ému, je le vois dans vos yeux. Oui, ça vous émeut presque aux larmes de chanter.
Ben moi, je ressens en fait ce que je dis, je le ressens vraiment à l'intérieur de moi, c'est pour ça.
Ouais. Alors dans Tiembo, vous êtes dans le clip, sur un cheval. Et c'est un texte très fort, très engagé, puisque vous évoquez les violences faites aux femmes.
Les gens, ils commencent à quand même à parler, et c'est ça qui est bien. Mais pendant des années, c'était vraiment quelque chose que... Voilà, c'était un sujet tabou. Dans certains, enfin, familles, des traditions, c'est quand tu te maries, voilà, c'est pour le pire et le meilleur. Maintenant, quand c'est le pire, ben les gens ils se cassent. Hein, mais avant, c'était vraiment le pire, tu restes là, quoi. Même si, voilà, la violence est hyper dure, donc les gens ils restent. Et moi, j'ai écrit cette chanson parce que pendant une semaine, trois faits divers, trois meurtres. Mon Denis, je me suis dit, mais dans quel monde on vit, quoi?
Stop, quoi.
Voilà. Et donc, j'écris Tiembo. Mais j'écris Tiembo plus dans le sens de ramener les gens vers la résilience.
Oui, parce qu'il y a de la douceur.
Voilà.
Ouais. Il y a des titres plus guerriers. Je pense à Guerrier, notamment.
Hein, et après, c'est vrai que moi, j'aime bien, enfin, quand j'écris même dans les chansons, c'est-à-dire une chanson qui sera, qui va parler d'amour, ça sera une chanson un peu plutôt rock. Ouais. Une chanson qui parle. Voilà, j'aime bien ce sens-là aussi.
Comme la chanson Guerrier,
comme
justement.
La chanson Guerrier.
Qui est une chanson guerrière, mais très douce. Magnifique album de Christine Salem, Merci, qui est sorti donc cette semaine partout chez les disquaires et sur les plateformes d'écoute en ligne et de téléchargement légal, s'il vous plaît.
On va essayer de tenir.
Et oui, il faut soutenir les artistes créoles du monde entier. Merci Christine Salem.
Merci.
Merci, c'est le titre de l'album, ça colle.
Ça colle très bien.
Ça colle très bien.
À bientôt.
À bientôt Christine.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires avec les coups de gueule et les coups de cœur. On commence par un coup de cœur en Suisse. Claire Renaud, un beau livre.
Oui, j'ai un beau livre aux éditions Notary, Genève, 5 siècles d'accueil. Alors, dans un joli format et richement illustré, ce livre va nous raconter l'histoire de personnalités qui ont marqué Genève. Elles ont un point commun. Elles viennent toutes d'ailleurs et elles ont contribué à la prospérité, je dirais surtout intellectuelle, et à l'ouverture d'esprit de cette Rome sévère calviniste. Pour tout Genevois, pour moi, c'est un joyau culturel indispensable.
Genève, 5 siècles d'accueil aux éditions Notary. Merci Claire. Mathieu Colombe, un coup de gueule en France.
Oui, alors, une remise des pendules à l'heure. Alors, je vais vous parler de quelque chose que mes confrères ont certainement entendu souvent pendant la saison de Noël. qui est, donc je cite, « Oui, on nous dit de venir chez vous, notamment pour soutenir les commerces de proximité, ouais. Mais et c'est à ce moment-là du mai où en fait on a un exposé qui nous dit que finalement la personne va aller chez Amazon ou autre. » Donc je vais dire un truc qui ne va pas vous plaire, Emmanuel, pourquoi mais vraiment, si vous voulez aller chez Amazon,
non.
Eh ben, allez-y, si, allez-y.
Non.
Parce que la lecture doit rester un plaisir. Il faut que ce soit un plaisir.
Non.
Si c'est pour venir en librairie à reculons, ça sert à rien. Donc faites-vous plaisir. Mais voilà. Mais par contre, si vous venez chez nous, oui, venez discuter un coup.
Oui.
Venez même rigoler. Mais après, oui, on pourra pas vous proposer les mêmes choses. C'est impossible. On est vraiment très désolé. On aimerait bien, mais on peut pas. Par
bien.
Contre, venez discuter.
On est bon. Pour. N'achetez pas vos livres chez Amazon. Je n'arrête pas de le dire. Privilégiez les librairies indépendantes pour les livres, s'il vous plaît. Mathieu est énervé. C'est pour ça qui dit ça. Josiane Letourneau, et puis c'est la provocation du Sud, ça, hein, Mathieu, quelque part.
Un tout petit ouais. peu.
Josiane Letourneau, allez, un coup de cœur au Canada.
Oui, et mon défi, ça va être de ne pas avoir l'air gaga, parce que je suis pas loin de l'être en ce qui concerne Martine Desjardins. Je veux vous parler du roman Méduse, publié chez Alto. J'ai été complètement séduite par ce livre. Évidemment, la figure de la Méduse n'est pas évoquée en vain. Le personnage principal de ce roman est une jeune fille aux yeux troublants que ses parents abandonnent au profit d'un institut appelé l'Athénaeum. Et ce sera entre les murs de cet endroit que des événements extrêmement dérangeants se dérouleront. Et ça donne quelque chose comme une construction gothique fascinante, sulfureuse. Et c'est l'une des plus étonnantes trames féministes que j'ai pu lire. Vraiment un livre unique.
Un livre unique. Et pourquoi seriez-vous gaga, du coup?
Ouais, parce que je suis complètement gaga de tout ce qu'elle fait.
Ah d'accord,
j'ai
parce que...
J'ai aimé tous ses romans.
Je vous ai connu beaucoup plus gaga.
Ouais, mais c'est parce que maintenant, en fait, je gère très bien le fait d'être gaga.
Méduse de Martine Desjardins, éditions Alto. Elle est complètement gaga, elle aussi. Déborah Damblon, en Belgique, avec un coup de gueule.
Non, pas gaga, Emmanuel, mais énervée. Vous me connaissez quand je suis énervée. Parce que, figurez-vous, il y a des années ici, en Belgique, qu'on lutte pour avoir le prix unique du livre, comme en France. Et puis, ça y est, après tellement d'années, le combat du syndicat des libraires indépendants a obtenu gain de cause. Oui, mais presque gain de cause. Ah. Parce que quand on parle de prix, on s'entend TVA non comprise. Et en France, la TVA, elle est de 5,5%, alors que chez nous, en Belgique, elle est de 6%. Donc voilà, se pose la question de qui va prendre en charge ce foutu demi-pourcent. Alors, Europe, il y en a qui parlent d'Europe ici.
Ouais, on est gaga hein, à force, hein. On n'en peut plus. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle quand même.
Oui, c'est presque une bonne nouvelle. À 1,5% près, c'est une excellente nouvelle, Emmanuel.
À 1,5% près. Allez, soit. Dans un instant, la grande poétesse et romancière franco-libanaise Vénus Corrigata pour son nouveau roman. Voici le tout nouveau titre de Benjamin Biolay, en duo avec Juliette Armanet, dans la librairie francophone, bien sûr.
Une chanson qui sent bon le chagrin, pour te dire combien je suis seul, pour te dire combien je suis las. Un couplet aux airs de faux refrains, pour dire combien la vie est laide, ou combien elle est dégueulasse. Une chanson qui frise la complainte, pour te dire que la pluie est triste, pour te dire que la neige est crade. Que la lumière n'est que demi-teinte, que j'ai l'air d'un équilibriste, plus que d'un avaleur de sable. Je me souviens de ton dos qui s'ennuie en ligne, puis rien de rien, plus un mot, un battement de cils.
Je me souviens.
pauvre que moi-même. Et puis encore, ma peau est revêtue de glace et mes idées noires en surnombre. Un couplet en forme de douceur pour dire que je n'ai plus de place dans ton siège et tes silences. Une chanson qui rêve de chaleur à écouter si le temps passe en ne laissant qu'un vide immense. Je me souviens de ton dos et sans bruit, puis rien de rien, plus un mot, un battement de cire.
Le tout nouveau titre de Benjamin Biolay en duo avec Juliette Armanet, rue Saint-Louis en Lille.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Vénus Corrigata est dans la librairie cette semaine pour son roman Ce qui reste des hommes, paru chez Actes Sud. C'est une histoire fantasque avec une femme qui se rend dans une agence funéraire pour acheter une concession et qui se retrouve à avoir deux places. Une pour elle et une pour la personne de son choix. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de mari, pas d'enfant. Il faut donc qu'elle retrouve l'un des hommes de sa vie, Vénus.
Elle a été mariée, elle a été divorcée, elle s'est remariée, mais elle les a perdus tous de vue. Depuis 20 ans, elle n'a plus vu personne, aucun de ses anciens maris ou amants.
Oui.
Et elle va à leur recherche, c'est une véritable expédition à la Sherlock Holmes. Elle cherche, il y en a qui ont, elle a perdu leurs traces. Il y en a un qui est un grand sinologue qui, depuis 20 ans, n'a pas donné de ses nouvelles, il est en Chine. Il y a un autre, elle ne savait pas qu'il était mort. Elle appelle chez lui parce qu'il voit dans les nécros son nom,
oui.
Et sa veuve est très énervée. Elle lui dit, c'est pour continuer, vous lui offrez une place dans votre concession, dans
oui.
votre tombe.
Prenez-le.
C'est pour continuer à baiser ensemble.
Oui,
et elle dit, non, oui. madame, c'est pour ne pas être seule, parce oui. qu'elle a horreur de la solitude.
Oui, c'est ça, c'est une question que beaucoup de monde se pose, ça, Vénus Corrigata. Se retrouver seule dans la mort, c'est
et
terrorisant.
Et dans la vie, parce que ce livre a été écrit dans le confinement, j'étais oui. dans une solitude incroyable, et je pensais à l'autre, solitude dans une tombe. Je me suis dit, mon Dieu, je vais me retrouver seule encore une fois morte. C'est terrible. Et qu'est-ce que je vais faire? Tous ces hommes qui sont passés dans ma vie, que j'ai épousés, j'ai fait des enfants. Mais qui, lequel d'entre eux va
ah oui, donc c'est un peu votre histoire,
moi.
Quoi.
Et ouais. il y a cette femme qui lui envoie, l'épouse, elle ne lui envoie pas le corps, parce qu'elle vient de lire le nom en nécrologie. Elle lui envoie les cendres.
Ouais.
Elle les dépose sous l'évier avec les produits d'entretien.
Oui, donc ça ne marche pas. Et les cendres.
Ouais.
Ça ne va pas dans une concession.
Non, il mmh. y a des vrais, il y a de l'inventé, il y a beaucoup de choses. Je ne sais plus, mmh. je ne me posais pas la question d'où vient cette histoire. Je ne sais plus si c'est moi, Diane, ou si quel personnage je suis.
Alors Diane, c'est votre personnage, et je vais vous dire un peu, Vénus, que c'est un peu vous. Parce que Diane, elle a fait fuir certains hommes avec son obsession pour l'écriture. Et sa fidèle amie Hélène lui dira « Les hommes qui t'ont aimé gardent le souvenir d'une femme penchée des journées entières sur ses pages » au point d'oublier de remplir le frigo, les horaires des repas et à quelle blanchisserie elle a confié leur chemise. Elle oubliait qu'elle était une femme rechignée à faire l'amour, réservant l'orgasme aux héroïnes de ses romans.
C'est peut-être moi, c'est toutes les femmes qui écrivent, écrivaines. On finit par être amoureuse de l'écriture, elle remplit votre vie, et après on se retrouve vieille, comme mes deux héroïnes, Hélène et Diane, mais elles ne savent pas qu'elles oublient leur âge. Elles se croient toujours désirables à 80 ans. Elles croient toujours qu'elles peuvent séduire des hommes.
Mais ça peut.
Oui, pourquoi pas, et pourquoi pas, on peut être très désirable à 80 ans, et toutes les vieilles ne sont pas des vieilles, elles sont vieilles dans leur tête, c'est tout.
Mais en tout cas, ça aurait pu être une comédie, ce livre-là, et je crois que vous l'avez écrit comme une comédie, sauf que c'est une histoire plus profonde, plus sombre aussi. Vos personnages, ils sanglotent un peu, on va y revenir juste après que l'on aura laissé la parole au libraire, avec la France et la Suisse. On va laisser Mathieu Colombe dire ce qu'il a pensé de votre ouvrage. Mathieu. Aix-en-Provence.
Oui, bah alors évidemment, j'ai aimé le roman de Vénus Corrigata. Son écriture est toujours aussi incisive et précise. Et effectivement, ce roman nous parle vraiment du fait que nous sommes des animaux sociaux et que la solitude pour nous sera toujours une épreuve à surmonter. C'est vraiment une peur primale. Alors il y a évidemment pas que ça dans ce roman, mais c'est indéniablement son trait le plus marquant et le plus frappant, et c'est réussi.
Claire Renaud pour la Suisse, qu'en pensez-vous ?
Alors moi, j'ai trouvé très plaisant et prenant votre livre, et j'ai surtout apprécié l'aspect onirique. Et l'écriture que j'ai trouvée légère nous emporte dès les premières pages dans des sujets graves comme la solitude ou la mort. Mais vous avez beaucoup d'humour. Et donc, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup rigolé en lisant votre livre. Et j'ai adoré ces personnalités fantasques. Enfin bref, moi, j'ai trouvé que c'était un pur bonheur de lecture.
Bon, voilà. En tout cas, les libraires ont rigolé, comme ils disent. Vous, la femme exilée du Liban, qui avez connu la mort de vos proches et la douleur des disparus, c'est un peu comme si la mort rôdait toujours autour de vous. Et ce livre, c'est un peu ça aussi. Moi, il m'a pas vraiment fait rire, Vénus, pour tout vous avouer. Un peu comme si vous n'aviez jamais pu ou voulu vous détacher de la mort. Parce que la mort, elle est omniprésente dans ce livre.
C'est normal, il y a eu 200 000 morts dans mon pays, le Liban, pendant 15 ans, une guerre terrible. Et maintenant, le Liban, ça est beaucoup misérable. Il y a une récession, il y a 100% de perte de la livre libanaise, il y a le Covid, personne ne vient l'aider. Parce que la terre entière est occupée par... occupée par soi-même.
Oui, on avait fait une émission en septembre d'ailleurs, sur le drame qui touchait le Liban, après cette explosion horrible au mois d'août. Mais vous, Vénus Corrigata, votre thérapie, vous dites que ça a toujours été l'écriture. Dans le livre aussi, vous l'écrivez, ça. Quand vous perdiez un homme, vous vous mettiez à écrire ou vous adoptiez un chat?
Tout à fait. Un homme ou un chat. Le chat, c'est encore mieux.
Pourquoi?
Parce qu'il ne demande pas à manger trois fois par jour. Il ne faut pas lui changer des draps, il ne faut pas repasser des chemises, il faut simplement lui ouvrir une boîte et ça va, il est très heureux, il ronronne dès que vous le regardez.
Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un chat et un mari allergique aux poils de chat comme vous en avez connu? On choisit qui?
Il retourne chez sa femme ou chez sa mère et je garde le chat.
Ah oui?
Oui, je peux vivre sans homme, mais je ne peux pas vivre sans chat. J'ai toujours été mère de beaucoup de chats.
Mais alors, parfois, vous preniez un homme pour fertiliser votre inspiration littéraire et pour effacer vos douleurs aussi. C'est-à-dire que c'est un éternel recommencement, votre vie, Vénus Corrigata.
Parce que l'écriture est la seule thérapie contre la solitude, contre la douleur, contre la déprime. J'ai beaucoup déprimé après la mort de mon mari. Il n'avait que 52 ans et j'ai été dans un état de grande dépression, de grande douleur. Et dès que j'ai commencé à écrire, j'étais mieux. Finalement, ma seule thérapie, c'est l'écriture. J'oublie tout. Dès que ça va mal, je n'avale pas des...
Des cachets ?
Non, j'écris.
Mais votre personnage, c'est un peu comme une mante religieuse. Vous êtes comme ça, Vénus, vous ? Elle se sert des hommes pour les dévorer ensuite ?
Non, pas du tout. Ils me dévorent. Ils m'ont dévoré beaucoup de temps. Je me suis beaucoup occupée de... J'ai fait très attention à ce qu'ils mangent, à ce que leurs chemises soient bien repassées, à ce que je leur... à changer leur drap de lit. J'ai été vraiment l'épouse idéale. Mais Dieu
une épouse
m'a pris...
n'est pas obligée de faire ça non plus, vous savez. Les hommes peuvent se débrouiller.
Pas les jeunes.
Ils peuvent remplir le frigo, repasser leurs chemises et tout ça.
Pas les jeunes. Mais une femme fatale m'avait pris le premier, Dieu m'a pris le second, Dieu m'a repris aussi le troisième. Je suis veuve à puissance 2. Je ne sais pas pourquoi la mort me poursuit comme ça. Elle m'arrache tout ce que j'aime.
Elle est dans vos livres?
Elle est dans mon livre, elle est dans ma poésie surtout.
Mais oui, mais là encore, même dans cette comédie...
Oui, mais on rit beaucoup.
Ouais, mais les personnages chouinent un peu, comme on dit, ça sanglote aussi.
Ça sanglote quand j'ai sangloté. En racontant l'histoire de l'écrivain péruvien, j'ai sangloté. Parce que c'est la seule vraie. Et Bertrand Pi, mon éditeur, m'avait dit « Tu as inventé beaucoup de personnages dans ce livre, raconte-moi une vraie histoire d'amour. » Et je me suis rappelée d'un grand écrivain qui m'a aimé par téléphone, par écrit, par buonanotte tous les soirs. Et puis le jour où il devait arriver, où je devais le voir, il y avait l'avion qu'il avait pris, qui avait cogné contre une montagne, il est mort.
Il s'est
finalement
écrasé,
c'est un amour jamais consommé. Et peut-être parce qu'il n'a jamais été consommé qu'il est le plus grand amour.
Vous écrivez « Les morts sont de grands rancuniers, ils ne passent jamais l'éponge ». C'est Hélène qui dit ça. Ils vous font peur, les morts, autour de vous?
Par moment, non, puisque Hélène et moi, parce que j'ai une amie qui était avec moi, on faisait tourner les tables pour retrouver nos maris qui étaient deux copains inséparables.
C'est vrai.
Alors des fois, la table tapait du pied furieuse. Et on a imaginer que ces morts n'avaient pas envie de nous dire où ils étaient, parce qu'on dit « Où est-ce que vous ? Où êtes-vous ? Est-ce que vous êtes bien traité là où vous êtes ?»
Je vois bien la scène. Ça n'a pas marché du tout, en fait.
« Est-ce que vous m'aimez encore ?»
Donc ça n'a jamais marché.
Ça n'a jamais marché. Non. Si, il y a la table qui bougeait. Ouais. Elle bougeait ou elle était furieuse quand on lui posait des questions trop indiscrètes.
Merci beaucoup, Vénus Corrigata.
Merci à vous.
Ce qui reste des hommes, c'est un roman drôle, vous l'avez entendu, d'après nos libraires, et il est paru aux éditions Actes Sud en coédition avec l'éditeur libanais L'Orient des Livres. À bientôt, Vénus.
Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et chaque semaine, nous donnons la parole aux bibliothécaires, quelque part dans la francophonie. Aujourd'hui, c'est le Canada qui est à l'honneur. On vous emmène à Saint-Jérôme, au Québec. Bonjour Stéphane Legault.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes responsable du réseau des bibliothèques de la ville de Saint-Jérôme. Vous êtes en pleine forme apparemment. Que voyez-vous ou que peut-on voir par l'une des fenêtres de la bibliothèque?
Par ma fenêtre, j'ai une magnifique vue sur la place du Curé-Labelle, qui est un square de style victorien, où je peux observer actuellement qu'il y a quelques citoyens qui bravent le moins 14 degrés en patinant joyeusement dans des petits sentiers qui ont été aménagés entre les arbres. On y voit aussi la majestueuse cathédrale de Saint-Jérôme en arrière-plan. C'est un décor qui est vraiment magique. Et le soir, avec l'illumination, ça crée une ambiance qui est carrément féerique.
Moins 14 degrés, oui, quand même.
Quand même.
Bon, allez, quel grand classique de la littérature avez-vous choisi, puisque c'est le principe de cette séquence?
Alors, j'ai choisi de vous présenter le roman « Un homme et son péché » de Claude-Henri Grignon, qui a été publié en 1933. J'ai pris ce classique québécois parce que la bibliothèque où je travaille est située au cœur de la Maison de la culture, qui porte le nom de l'auteur, et parce que ce roman a grandement marqué notre culture populaire. Donc, « Un homme et son péché » est un récit qui se passe à l'époque de la colonisation des Laurentides, plus précisément à la fin du 19e siècle. On y suit la vie de Séraphin Poudrier, un avare notoire que j'ai adoré détester tout au long du récit et qui exploite et terrorise les citoyens de son village grâce à sa fortune et ses fonctions de maire. Un gars qui est complètement dépourvu de sens moral. Pour lui, rien ne compte plus que l'argent, au point où maintenant au Québec, lorsqu'on dit qu'une personne est avare, on dit que c'est un vrai séraphin.
Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon, c'est un livre de 1933 et l'une des œuvres les plus célèbres au Québec, qui a même été adaptée à la radio. Merci Stéphane Legault.
Merci, bonne journée.
Merci à vous, merci à la bibliothèque de Saint-Jérôme au Québec, le Québec où on écoute évidemment la librairie francophone tous les samedis sur Radio-Canada. On termine avec une musique populaire quelque part dans le monde, dans un pays membre de l'OIF. Voici justement Roxane Bruno, numéro 1 en ce moment, figurez-vous, au Québec. Allons-y.
J'ai lâché l'école, j'ai lâché mon job et j'en pensais que je savais pas quoi faire de ma vie. Je suis pas inquiète, je décolle, je rends pas compte à personne. Puis tout ça faisait partie d'un plan précis. Un petit bout de cul qui vient de pas grand-chose, mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment. Les autres d'avant ont voulu montrer chemin, mais j'ai quand même décidé de pogner le champ et de faire les choses à ma manière. Même si je vois bien, ça fait pas l'heure à faire. Moi, il semble que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seul en cuillère. Je vais faire les choses à ma manière. Je vais danser les deux mains bien dans les airs, même si tout le monde notre seul problème. J'ai trouvé un remède, je vais te montrer ma cachette bien enfouie juste ici, quelque part dans ma tête. Si tu cherches, c'est promis, t'as le pouvoir toi aussi, t'as tout ce que tu veux, ce que tu rêves dans la vie, et de faire les choses à ta manière. Même si tu vois bien, ça fait pas l'heure à faire. Tant que t'es fier du reflet dans le miroir, puis que t'arrives à te coucher le soir seul en cuillère. Faut faire les choses à ta manière. Tu voudrais rêver sans qu'on t'éteigne, puis sentir enfin que tout ça pour la peine. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai pas où aller. C'est ta vie, puis tu fais mal, tout ce qui te fait vibrer. Je veux faire les choses à ma manière. Même si je vois bien, ça fait pas l'heure à faire. Moi, il semble que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seule en cuillère. Je veux faire les choses à ma manière. À ta manière, peu importe ce que le monde va dire de faire.
Un extrait de À ma manière de Roxane Bruno, numéro 1 en ce moment au Québec. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Pauline Laverdure à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France, Nicolas Julliard et Sophie Grécoutchou en Suisse, René Mikils avec Valérie Le Put en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Thierry Dupin était à la prod musicale. La semaine prochaine, la suite de l'entretien avec Boris Cyrulnik sur la plage, l'avocat et écrivain Richard Malka et Leïla Slimani. Tout ça, si c'est encore possible, on verra bien. Merci pour votre fidélité. Bon week-end à tous. Salut.